Messieurs les producteurs de cinéma sonore, regardez-moi, regardez-moi encore. La tête en sandale, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Et voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, dans la matinale, on va parler association. Si vous êtes membre d'une association, et ben restez à l'écoute, ça va vous intéresser. On revient juste après le générique.
Voyons.
Pour m'accompagner ce matin, j'ai avec moi Carlos Lopez, adjoint de direction à Uracen. On va parler association. Bonjour Carlos, bienvenue sur notre antenne.
Bonjour.
On va parler association et Uracen. Qu'est-ce que c'est Uracen ?
Uracen, alors c'est une union régionale d'associations des Hauts-de-France qui existe depuis 1965. Et comme le dit en Hauts-de-France, on est basé vraiment sur toute la région. Et moi, principalement, je travaille beaucoup sur l'ex-Picardie, la Somme, beaucoup sur l'Oise et un tout petit peu sur l'Aisne.
Donc vous êtes une association au service d'associations. C'est dur à dire association et association.
Ouais.
Qu'est-ce que vous proposez exactement ? C'est quoi vous faites ? Quel type de pôle en fait par rapport au, entre l'État et les associations que vous représentez ?
Alors grosso modo, on donne vraiment toute l'aide aux associations, que ce soit sur le financier, recherche de financement, mise en place de tableurs, etc. Ou une aide simplement sur comment on remplit un plan comptable, on peut les aider là-dessus, mais aussi sur la mise en place de statuts, d'AG, ou sur toute question qui peut être en articulation avec un dossier associatif. Simple, j'ai mon président qui veut démissionner, comment il doit faire ? Voilà, on répond vraiment à toutes les questions. Alors c'est vrai qu'on est une association qui aide les associations, mais c'est comme ça, on en a eu besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du département, si on parle du département de l'Oise, voilà, il y a une densité d'associations qui est énorme, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, et on est là pour les aider.
Qu'est-ce que viennent vous voir ? Pourquoi les associations en particulier ? C'est quoi le thème qui revient le plus souvent ? J'imagine le thème du financement, mais si on met le thème du financement, c'est quoi le deuxième thème qui revient le plus souvent ?
La loi 1901. C'est tout bête. C'est qu'ils se demandent, voilà, c'est quoi la loi 1901 ? Comment on fait pour être vraiment une association ? Donc, ils sont associations, mais ils se demandent s'ils sont vraiment associations parce qu'ils ont mis en place des statuts. Hein, donc, ils ont été sur Google, ils ont sorti des statuts, ils ont rempli ça. Et puis, ils se disent, mais on n'est vraiment pas conforme par rapport aux statuts. Donc, comment on fait ? Et c'est quoi la loi 1901 ? Donc, c'est vraiment le premier point. C'est la loi 1901. Et après, c'est tout ce qui est statut AG et le fonctionnement interne de l'association.
C'est quoi la loi 1901, du coup, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est ?
Alors, loi 1901, alors, c'est une superbe loi. Hein. C'est une superbe loi, c'est parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, si vous êtes au minimum deux personnes, et que vous avez une passion, un hobby, et vous avez envie de le partager avec tout le monde, ben, vous créez une association. Et la loi 1901, c'est ça. Il faut être deux personnes pour pouvoir mettre en place une association, mettre en place des textes, qu'on appelle des statuts, et derrière, ben, voilà, se faire plaisir, et faire plaisir aux autres personnes, je ne sais pas... si vous faites partie d'une association culturelle, si vous êtes partie d'une association d'animation, si vous êtes une radio, etc., vous pouvez partager ce plaisir avec pas mal de monde en mettant en place une association.
Des entreprises également peuvent être des associations. Sous le statut associatif, le principe, c'est que l'argent qu'on gagne à la fin de l'année, on le réinjecte dans l'association pour faire des activités, et ça ne va pas à des actionnaires ou à des dirigeants, c'est ça ?
Complètement. Hein. Une association, c'est à but non lucratif. Hein. Donc l'argent qu'on peut avoir en fin d'année, hein, la trésorerie qu'on peut garder, ben, c'est réinvesti dans l'association ou dans des actions qu'on veut mettre en place l'année d'après. Hein. Donc c'est ce que vous voyez hein, tous les jours, hein, quand vous êtes dans un club de football ou quand vous êtes dans une pièce de théâtre, etc. Vous voyez, ben, on réinvestit dans du matériel, on réinvestit dans des costumes. Voilà, on peut réinvestir. Après, voilà, il y a des associations qui mettent un petit peu d'argent de côté parce qu'ils ont des salariés, le dit, hein. Il y a des entreprises entre guillemets, ce sont des associations mais ils sont des salariés, donc voilà, ils gardent aussi un petit peu d'argent pour les salariés, mais c'est surtout, voilà, c'est pour réinvestir et pour faire encore plus.
Ouais, parce que dès qu'il y a des salariés, c'est toujours une association. Alors, on pense au club de foot. Souvent, les dirigeants sont bénévoles, mais par exemple, l'entraîneur est payé. La personne qui va aller tondre la pelouse peut être rémunérée. Enfin, voilà, c'est derrière, il y a quand même un système qui est monté, quoi. C'est ça. Un peu comme Graphite, c'est-à-dire qu'on a des bénévoles, mais on a également des gens qui sont rémunérés pour ça.
Bien sûr, voilà. Dans les associations, il y a des associations qui ont 2, 3, 4, 5, même voire 10, 20 salariés, mais sont toujours dans le mode associatif. Voilà, c'est vraiment le mode associatif. On n'est pas là pour entre guillemets, hein, se faire de l'argent. On est là vraiment pour se faire plaisir, donner du plaisir aux personnes qui sont autour de nous, ceux qui partagent nos idées, notre passion, et faire grandir l'association, quoi. Alors, c'est vrai qu'une association, hein, je prends un exemple toujours, hein, j'ai des associations culturelles ici qui étaient 2-3 et aujourd'hui ils sont une quinzaine, ils font des grands festivals, etc. C'est superbe. Vous avez je prends l'exemple, un exemple simple, vous avez le Bordelot qui est... Compiègne, Marie Compiègne, qui on a connu où ils étaient... Alice Maco était toute seule et puis elle a repris le thème du Bordelot. Aujourd'hui, ils sont plusieurs salariés, ils font des festivals, ils font pas mal de choses. Voilà, et c'est toujours une association, même s'il y a beaucoup de salariés, c'est une association et qui vit et qui fait vivre pas mal de monde autour.
Je profite que vous parlez du Bordelot, puisque le Bordelot reprend ses jeudis du Bordelot. Donc si vous êtes auditeur et que vous ne savez pas quoi faire le jeudi, et bah chaque jeudi, vous avez une proposition culturelle. Donc parfois, vous avez du théâtre, du cinéma, de la musique, parfois des émissions radio, même faites en public. Donc, allez-y, ça a repris la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller faire un tour chaque jeudi. Au Bordelot, c'est le long de l'Oise, du côté de la gare, c'est du côté de Marny-les-Compiègnes, mais c'est presque du côté de Compiègne. Vous allez le long du chemin de Halage et vous retrouverez le Bordelot, ancienne usine reconvertie en lieu culturel. Là aujourd'hui, les associations qui viennent vous voir, est-ce qu'il faut qu'elles soient adhérentes de URACEN ?
Du tout. Non. Alors, l'URACEN, c'est dans l'Oise, hein, dans l'Oise et dans les Hauts-de-France, on est aussi guide asso, donc on est guide asso généraliste. Donc, bien sûr, ils peuvent venir nous voir, nous poser des questions. Alors, je tenais même un petit coucou aux grèves des associations de Beauvais qui nous envoient beaucoup de monde sur des questions, sur toutes les questions de thématiques associatives. Mais non, ils n'ont pas besoin d'être adhérents. Après, ceux qui veulent être adhérents chez nous, bien sûr, il y en a, on en a beaucoup, on a 270 je crois adhérents de tête, hein, dont des communes, etc., qui viennent et qui s'intéressent chez nous, mais vraiment pour des questions vraiment spécifiques à la culture ou autre.
Ouais, parce que là, on l'a dit, vous êtes au service des associations, des bénévoles dirigeants, donc souvent c'est le conseil d'administration, des salariés également d'associations, mais également des collectivités locales.
Oui, on travaille beaucoup avec les collectivités. Hein. Beaucoup de communes font appel au service de l'URACEN pour pouvoir faire vivre le monde associatif dans leur commune et les former. Parce qu'on fait aussi de la formation, donc on les forme sur pas mal de thématiques. Et certaines communes, comme Creil, d'autres, hein, Beauvais, et même des petites communes comme Caufry, etc., nous demandent de venir et de les aider à mettre en place des actions pour les associations. Mais c'est aussi c'est une volonté de faire vivre les associations de leur commune et de leur donner les moyens d'aller chercher soit des subventions, soit de se former. Formé, etc.
C'est un peu une délégation de service public.
On va dire ça.
Là, on parlait du guide asso. Le guide asso, avant, on le connaissait sous un autre nom. C'était le nom PIVA, pour Pôle d'accompagnement et de formation pour la vie associative et culturelle. Aujourd'hui, c'est plus simple. C'est guide asso. En gros, si on a une question, on se rapproche des guides asso. Alors, vous êtes guide asso, mais il y a pas seulement, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres associations sur le territoire qui sont guide asso. Par exemple, le Bordelot, encore une fois.
Tout à fait.
Qui est-ce d'autres qu'on peut aller voir si on a des questions
Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de guides asso. Vous avez les guides asso information. Alors, c'est les guides asso information. Ils donnent de l'information aux associations, hein, et puis vous avez les guides asso orientation qui eux ne peuvent pas donner des informations parce qu'ils ne l'ont pas, donc ils orientent vers d'autres structures. Et puis vous avez les guides asso comme l'URACEN, sont les généralistes. Donc approximativement, il y a une trentaine de guides asso sur le territoire de l'Oise que vous avez sur le site de la préfecture et vous aurez bien sûr les noms, adresses et les contacts pour ces guides asso. Après, vous avez, comme je l'ai dit, les guides asso généralistes. Les guides asso généralistes, vous avez l'URACEN, vous avez le centre social de Guiscard, on est 8. Vous avez le comité handball de l'Oise. Vous avez le centre social de Breteuil, vous avez le CAL du Clermont, et puis je suis en train d'oublier, vous avez aussi un centre social Nanteuil-le-Haudouin qui est dessus aussi, puis je ne sais plus si j'ai encore oublié, mais bon, voilà, on est 8, et ça, ce sont vraiment les guides asso généralistes. Et vous avez la Ligue de l'enseignement, j'ai oublié, avec Ligia, j'ai dit bonjour à Ligia, parce que Ligia, c'est une de mes collègues qui fait un super boulot. Avec les autres, bien sûr, ils font tous du super boulot. Et les guides asso généralistes, vraiment, on est là pour vous répondre à toutes vos questions les plus pertinentes, hein, ou les plus compliquées, que ce soit sur la GRH, que ce soit sur les demandes de subventions.
C'est quoi la GRH ?
La gestion des ressources humaines. Et oui, on a, on a de la GRH, on a des gestions de la ressource humaine aussi au niveau de des associations, puisque vous savez très bien que les bénévoles, ou quand on a un comité d'administration, ben des fois, il y a un turnover qui est assez compliqué et il faut savoir le gérer, sinon on se retrouve un peu en couac. Donc voilà, ces guides d'assaut-là, ces généralistes, eux, ils ont un statut un peu plus compliqué, c'est que par rapport aux autres, ils doivent répondre à toutes les questions. Et bien sûr, bon, quand ils ne le savent pas, ils demandent au coordinateur que vous avez qui est devant le micro, c'est moi, de répondre aux autres questions qui sont trop compliquées, que ce soit après ça peut être du juridique, etc. Et c'est à moi de trouver les réponses. Donc chaque fois qu'une association pose une question, elle aura sa réponse.
Il y a Amiens, la maison des associations d'Amiens. Est-ce qu'il y a d'autres maisons des associations dans le coin, dans l'Oise, ou peut-être du côté de Soissons, un peu dans l'Aisne?
Alors, la MAM, qui est une maison d'association, c'est une maison d'association d'Amiens Métropole, elle est vraiment pour Amiens Métropole. Elle ne peut pas ressortir des frontières d'Amiens Métropole. Elle travaille vraiment dans l'Oise. Oui, il y a la MNCH à Beauvais, qui travaille aussi pour les associations du Beauvaisis. Et dans toutes les grosses structures, vous avez des maisons d'association. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préféré prendre les guides d'assaut. Les guides d'assaut, c'est vraiment les structures qui sont vraiment connu dans certaines villes comme la MCA de Creil ou Guiscard, voilà, qui sont vraiment connus, c'est des grosses maisons d'association qui peuvent, eux, vraiment vous informer. Donc, un peu partout sur le territoire de l'Oise, dans les grosses villes, vous avez une maison d'association, entre guillemets, hein, c'est un centre social, ça peut être aussi une maison pour tous, voilà, y a beaucoup d'appellations, mais ils sont là vraiment pour vous aider.
Donc souvent, ils vous accueillent, vous pouvez faire des réunions chez eux, vous pouvez avoir accès du matériel, faire des impressions et également répondre aux questions que les associations se posent.
Bien sûr, hein, bien sûr, oui, on est toujours bien accueillis et vous serez bien accueillis aussi dans ces maisons d'association.
On va faire une courte pause musicale avec des artistes locaux, avec Panic et Leva, et d'ailleurs leur release party, ce sera le 17 mai 2023, 19h au Zicodrome, et on en parlera puisqu'on les aura également dans une matinale. On écoute ça c'est un nouveau morceau et on se retrouve juste après.
Souvent je pense et je remets en moi tous les terres de ta voix pour penser mes absences. Je revois ton image qui me sauve de la corde que le réel me tord. Si je pleure sur ses pas, je dessine des montagnes pour prendre de la hauteur. Quand je fuis ma laideur dans le bagne qu'est mon crâne, t'es toujours sur mes pas, tu deviens mon essence. Mais j'ai si peur de toi malgré toutes nos danses. Soir contre un partout mes manques et tant pis si je flanche, t'es mon dernier espoir. Je revois mon passé entre angoisse et discorde, le futur m'a tué, que le réel se torde.
Y'a comme un goût de tyrannie quand je cours le soir dans l'incendie de mon crâne, offrant ses insomnies à toute pensée instable. Si je te vois de l'autre bout du lit scrutant mes pensées illégales, parfois je préfère ne pas exister car le réel est insoutenable. Toujours j'agonise un peu plus, ma quête de sens devient percute. Mon corps s'efface par le surplus d'images de toi dans mon vécu. J'ai peur de vivre comme un reclus, j'aimerais danser dans l'imprévu, plier mes rêves en uppercut, fuir le réel jusqu'à ma chute.
Et je danse dans le noir, évitant le brouillard de vos vitres criardes, que le réel me tord. Et j'ai peur du foulard, resserrant l'existence. Si le faux est une transe, que le réel se tord. Et je danse dans le noir, évitant le brouillard de vos vitres criardes, que le réel me tord. Et j'ai peur du foulard, resserrant l'existence. Si le faux est une transe, que le réel se torde.
Et tu danses tous les soirs dans mes yeux si hagards. Prends mon âme en otage quand plane tout cet orage. J'aimerais prendre ton nuage, me noyer en naufrage. Faire le beau sur mes pages qui réel me sauvegarde. Y'a comme un râle de sympathie quand je chante tes bras sur tous mes cris. J'écris et tous mes vers reflètent le vide à trop d'écrire. Je deviens lucide, j'entends la rage de tes délices. Et le silence devient supplice quand tes yeux sont si apaisants. On lâche mes vices. Pourtant sans toi je suis vide, sans ta présence je viens perfide. Et quand je danse tu examines toutes mes faiblesses si assassines. C'est mon fardeau qui t'illumine quand je fuis le réel avant la corde. Mettez mon puits à dopamine alors que le réel se torde. Que le réel se torde. Je revois tous les soirs quand tu tires sur ma corde, provoquant ma discorde dans nos jeux si bizarres, ma faiblesse, mon opprobre qui me tord dans les flammes. Je sens mon vague à l'âme que le réel me torde. Que le réel se torde. Que le réel me torde dans les flammes. Que le réel se torde. Quand je pense à la corde, c'est ton âme. Et je pense et j'avance et j'élance ta sentence. Et je danse dans le noir, évitant le brouillard de vos vitres criardes, que le réel me torde. Et j'ai peur du foulard, resserrant l'existence. Si le faux est une transe, que le réel se torde. Et je danse dans le noir, évitant le brouillard de vos vitres criardes, que le réel me torde. Et j'ai peur du foulard, resserrant l'existence. Si le faux est une transe, que le réel se torde.
le réel se torde.
Quand je pense à la corde,
je revois mon visage dans une glace un peu sale. Ou alors est-ce mon âme si ça lit par tes charmes? Et je suis seul à ce bal dans lequel tu m'effaces. Les sourires efficaces pour survivre à ton mal.
Je danse dans l'espoir en priant ton départ. De mon crâne si faiblard que le réel assomme. Mais j'ai peur de ton art, angoissant mon essence. Si le vrai est une danse, que le réel se tord. Et j'attends tous les soirs en buvant le brouillard de ta voix si criarde que le réel me tord. Et je pense au foulard de ma fin d'existence. Si le faux est une transe, que le réel se tord. Et je danse dans le noir, évitant le brouillard de vos vitres criardes que le réel me tord. Et j'ai peur du foulard resserrant l'existence. Si le faux est une transe, que le réel se tord. Et je danse dans le noir, évitant le brouillard de vos vitres criardes que le réel me tord. Et j'ai peur du foulard resserrant l'existence. Si le faux est une transe, que le réel se tord. Et je danse dans le noir, évitant le brouillard de vos vitres criardes que le réel me tord. Et j'ai peur du foulard resserrant l'existence. Si le faux est une transe, que le réel se tord. Et je danse dans le noir, évitant le brouillard de vos vitres criardes que le réel me tord. Et j'ai peur du foulard resserrant l'existence. Si le faux est une transe, que le réel se tord.
Panic et Léva, ça sera la release party pour cet album avec leurs amis DJ Toon, Victor, ce sera le 17 mai 2023 à 19h. On les recevra la semaine prochaine dans la matinale. Et d'ailleurs, en fait, tout à l'heure, je vous parlais du Bordelot, hein, les lancements DJ du Bordelot. Et ben en fait, c'est ce soir, donc n'hésitez pas ce soir à aller voir le Bordelot. Et puis ce soir également, il y aura une émission particulière à 20h30 puisque je serai en direct du CDF, le Celebration Day Festival, qui lance un crowdfunding pour finir les travaux de leur studio, et on parlera du festival, on aura du live également. Donc ce soir à 20h30, soit vous êtes au Bordelot, soit vous écoutez Graphite. En tout cas, faites un bon choix, les deux sont vraiment très cool. Toujours en compagnie de Carlos Lopez pour parler du RACEN, on parle des associations au service d'associations. Là aujourd'hui, c'est combien d'associations qui sont suivies par URACEN?
Ouh là 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 là, énorme. Écoute, tous les ans, je suis obligé de remplir, on appelle ça les fiches Modalisa. Oh, je suis toujours avec Modalisa. Modalisa, et l'année dernière, j'en ai suivi 70. Alors, quand je dis suivi 70, c'est pas un coup de téléphone, c'est vraiment un suivi, voilà. Et là, cette année, on va peut-être dépasser les 100.
Et c'est quoi la plus petite structure et la plus grosse structure?
Alors, la plus petite structure, c'est une personne qui m'a téléphoné. Alors, l'année dernière, c'était super bien. C'est la plus petite structure, c'était une personne, enfin, pas qu'une, mais il y en a eu plusieurs, mais il y a une qui m'a vraiment marqué, c'était une petite structure une personne de 77 ans. Elle voulait monter son association, ça faisait 30 ans qu'elle voulait monter son association, elle ne trouvait pas le temps, et là elle a trouvé le temps, elle a monté une association d'aide à d'autres personnes, et ils étaient à deux. Aujourd'hui, un an après, enfin même 8 mois après, là ils sont une trentaine, donc ils font des petits voyages, ils font pas mal de choses pour les personnes âgées, et ça marche super bien. Et la plus grosse structure, c'est carrément une structure où il y a 20 salariés qui est dans l'Oise, qui a 20 salariés, qui a demandé à qu'on l'accompagne sur de la gestion prévisionnelle et de l'emploi. Alors de la GPEC.
Beaucoup d'acronymes. Ouais.
Beaucoup d'acronymes, ouais. La GPEC, de la gestion prévisionnelle et de l'emploi, et aussi de la gestion de bénévoles, parce qu'ils avaient du mal à faire venir les bénévoles. Donc on les a accompagnés, et là, ça reprend, voilà. Mais non, sinon, il y a vraiment tout type d'associations. Hein. La personne qui veut créer son association, comme l'association qui a déjà pas mal d'adhérents. On a accompagné sur du de l'emploi, un exemple, le Tennis Club de Beauvais, qui a 700 adhérents, et voilà, qui marche très bien. On accompagne sur pas mal de choses, quoi.
Encore un acronyme dont on va dévoiler un petit peu peut-être de quoi ça parle, mais c'est le FDVA, le Fonds pour le Développement de la Vie Associative. À la base, c'était les enveloppes parlementaires qui ont été mis dans un pot commun pour être redistribuées aux associations. Aujourd'hui, à quoi ça sert le FDVA pour des associations, et comment on peut postuler à cette aide?
Alors le FDVA, il vient de terminer, on a terminé le FDVA le 17 février.
C'est un appel à projet du coup.
C'est un appel à projet, qui se fait en début d'année, donc surtout pour la fin de l'année, mettez-vous en relation avec les guides assos pour mettre en place cette demande. Donc,
on parle de l'année scolaire ou de l'année civile?
L'année civile. Donc à partir du début janvier, il faut faire les demandes de FDVA, c'est des demandes à l'État, vous faites ça sur le compte asso. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le FDVA, il y a deux gros pôles, le pôle fonctionnement, c'est-à-dire l'aide au fonctionnement des associations, donc vous avez besoin d'une aide pour faire fonctionner votre association, vous pouvez le demander, et puis vous avez aussi un autre pôle, c'est l'aide à l'action innovante, vous voulez mettre en place une action, et vous avez besoin d'avoir un financement, l'État peut vous aider à travers du FDVA. Donc pour le fonctionnement, c'est des aides qui vont entre 500 et 5000 euros. Et pour l'action vivante, c'est entre 1000 euros et 10 000 euros. Donc il y a un dossier à remplir. Quand il est validé, voilà, c'est des subventions qui peuvent vraiment aider le monde associatif. Et après, vous avez un troisième pôle, c'est le pôle formation. C'est-à-dire qu'on forme aussi...
À destination des bénévoles.
Bien sûr, à destination des bénévoles. Donc on les forme, et là ça passe directement par l'URACEN. C'est-à-dire que si vous êtes une association, que vous avez envie de vous former, ou que vous voulez former vos bénévoles, vous nous téléphonez, on vous donne la marche à suivre. Et la marche à suivre, c'est voilà, pour chaque jour de formation que vous mettez en place, vous avez une subvention de 500 euros. C'est à l'accepter, bien sûr, ça le rend dans le cadre des formations qui sont acceptées par l'État. On vous finance de 500 euros par jour de formation sur un maximum de 5 jours, c'est-à-dire 2500 euros.
Alors attention, vous ne pouvez pas former vos bénévoles et être payé pour former vos bénévoles, non. Vous devez passer par un organisme extérieur ou former d'autres associations à l'activité que vous pratiquez.
C'est bien. oui, c'est tout à fait ça. Ah non, on ne va pas se former nous-mêmes, hein, sinon ça serait trop simple. Non, on va demander vraiment à des organismes extérieurs ou des personnes qui sont dans la formation à l'extérieur pour venir se former. Un exemple, vous pouvez demander au Bordelot de former vos associations sur l'accueil du public, comme vous pouvez demander au CAL du Clermont, du Clermontois, Jennifer Morel, que je fais un coucou aussi, qui peut vous former sur la communication culturelle. Voilà, il y a pas mal de formations. Hein. On fait des formations aussi sur les jardins partagés, il y a des formations sur le numérique. Voilà, vous avez trouvé votre bonheur dans la formation. Et si vous-même, vous êtes une association et que vous avez une expérience sur un domaine bien particulier et vous voulez former d'autres bénévoles d'autres associations, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Alors là, on parlait de l'appel, la date limite du dépôt d'appel à projet pour la région Hauts-de-France. Alors attention, si vous êtes auditeur et que vous allez dans une autre région, les dates peuvent changer.
Complètement. Alors là, moi, je vous conseille, c'est quand, si vous êtes dans une autre région, vous rapprochez de la direction départementale des vies associatives de cette région ou du département où vous êtes et vous lui demandez les dates. Mais logiquement, vous faites ça en fin d'année et voilà. L'État veut que de plus en plus les dates soient identiques un peu partout. Donc vous faites ça en fin d'année. Mais si vous êtes dans une autre région, dans un autre département, bien sûr, vous demandez les dates à la DDVA, aux directions départementales de la vie associative, qui vous donneront les dates de dépôt du dossier et surtout quand ça va être clos.
Vous êtes combien, vous, dans l'association ?
Dans l'association URACEN ?
En salarié,
on est 4 salariés. Donc vous avez Thomas, qui est mon collègue, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, Karima, qui est dans une collègue qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, et votre serviteur Carlos, et avec Stéphanie, que nous sommes pour la Picardie, et on est basé à Beauvais, à la MICH de Beauvais, à la Maison des Services et Initiatives Harmonie, qui est rue Maurice Segond à Beauvais.
Et pour vos dirigeants, qui sont les membres du conseil d'administration, c'est d'autres associations, c'est des politiques. Qui est-ce qu'on retrouve dans votre...
Alors vous avez de tout, Vous avez notre trésorier, c'est un ancien banquier, notre président...
Ça c'est bien, souvent d'avoir un trésorier banquier, c'est bien.
On a toujours du mal à trouver un bon trésorier et franchement, on a un super trésorier, Luigi, il est très très bien. Nous avons notre président, Eric Mielk, qui est directeur au niveau de l'université de Lille. Nous avons un peu de tout, hein. Nous avons des personnes qui travaillent dans la fonction publique, d'autres qui sont d'autres membres associatifs. On a aussi un entrepreneur. Voilà, on a vraiment de tout dans notre CA. C'est ça qui fait la richesse d'un CA, c'est que voilà, il faut de tout pour faire un monde, comme on le dit souvent. Et c'est vrai, quand il y a pas mal de personnes qui viennent de milieux différents, ça apporte de l'énergie, ça apporte des idées et ça fait grossir l'association.
Alors j'ai essayé de chercher parce que je sais qu'il y a une formation, justement, vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement des bénévoles. Je pense que le Bordelot propose une formation. Oui. Mais alors j'ai pas retrouvé la date. J'espère la retrouver tout à l'heure quand on écoutera un morceau, mais oui, il y a une formation qui va arriver ou qui a peut-être déjà eu lieu sur comment gérer le public, l'arrivée du public, voilà, d'avoir un peu formé nos bénévoles à la gestion du public.
Alors c'est vrai que le Bordelot, ils ont mis en place plusieurs formations et je sais cette année il va y avoir 2 formations, mais il y en a une qui est déjà passée, je crois. Vous verrez que
c'était samedi 8 avril, donc c'est passé.
C'est passé. Je disais aussi qu'Amandine me dit que c'était passé, mais bon, voilà, c'est passé. Mais ils mettront d'autres formations. S'il y a de la demande, ils mettront d'autres formations, il n'y a pas de souci.
On va réécouter un extrait de la programmation. C'est pas encore rentré en programmation, c'est une nouveauté. Ça s'appelle Joao Selva et vous allez voir, le morceau est vraiment très cool. Où est-ce qu'on retrouve les informations sur URACEN ? Il y a un site internet ?
Alors le site internet, il est en construction. Si vous voulez vraiment des informations, vous pouvez nous joindre directement à la MINCH. Je vais vous donner les numéros de coordonnées. Attendez.
Si vous voulez, on écoute le morceau et puis on vous les donne après.
Pas de souci.
Allez, c'est parti, on écoute ce morceau et il va rentrer en prog rapidement.
canarinho da Alemanha, rouxinol e sabiá, verdilhinho acauã, nunca mais eu vi cantar. Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Beija-flor, papacapim, assanha-su, pajéu, grau na caboculinho, já não vejo mais nenhum. Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Sem roubar nem matar, o pobre foi condenar. Mesmo assim ainda canta, som preto, canário pardo. Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Piriquito, patativa, curió e azulão, ei, xexéu da bananeira, lá no alto do sertão. Como pode um passarinho
Radio Graphite 94.9, www.graphite.net. Également, si vous avez repris cette émission en cours de route, elle sera podcastable sur le site PodCloud. On mettra tout ça sur la page Facebook de la radio. N'hésitez pas à liker la page Facebook de la radio. Il y a un petit compteur de likes qui s'affiche dans les studios. Là, actuellement, à l'heure où on est en train de faire cette émission, vous êtes 9569. Donc, tout à l'heure, on était 9570. Il y a quelqu'un qui a déliké pendant l'émission. Mais bon, allez-y, faites péter le score. On espère passer les 10 000 cette année. Également, des informations culturelles, puisque ça a commencé, ça commence du 26 juin, donc ça n'a pas encore commencé, mais ça va commencer, c'est évidemment le Festival des Forêts, du 26 juin au 15 juillet, avec des concerts, des bains de forêt musicaux. Toutes les informations, vous les retrouverez sur festivaldesforêts.fr, et vous pouvez également retrouver des informations dans Glissando, l'émission de musique classique, vous retrouvez tous les samedis à 9h. Voilà un petit peu pour l'actualité locale. On reparle un peu des associations, vous pouvez nous redonner donc les contacts du RACEN.
Ah oui, alors vous pouvez nous joindre si vous voulez proposer des questions, ou simplement ou même avoir un rendez-vous avec nous, hein, au 09 72 63 11 01, ou alors m'envoyer un petit mail à carloslopez@uracen.org.
Voilà. Donc là, si on vient vous voir, c'est gratuit.
Ouais, c'est gratuit. Ouais. J'offre même le café. Hein. Non, non, c'est gratuit.
Comment vous êtes arrivé à Uracen? C'était quoi votre parcours avant?
Ouh là là. Alors moi, j'ai eu un parcours atypique. Hein. J'ai fait pas mal de boulot dans ma vie. Je suis passé par le BTP. Je suis passé par l'industrie et j'étais responsable de ressources humaines. Et puis, il y a un moment dans la vie où on se dit, ben, on veut peut-être faire autre chose. Hein. Alors, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine, mais je pense pas, ou de la cinquantaine. Enfin, voilà, c'est que j'avais envie de faire autre chose. Et ça tombait bien, c'est que la structure où j'étais fusionnait, quand c'était la fusion des régions, fusionnait aussi. Et voilà, je suis parti de ma structure. J'ai cherché un peu partout. Et puis, je suis venu au monde associatif. Et vraiment, on avait déjà une connaissance qui n'était pas très bonne du monde associatif, et j'étais agréablement surpris. Et depuis 2018, je travaille dans le monde associatif, et on s'éclate bien dans le monde associatif.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'économie sociale et solidaire, puisque vous faites partie de l'économie sociale et solidaire ?
Alors, ce n'est pas trop mon domaine, l'économie sociale et solidaire. Moi, je suis vraiment... moi, je travaille beaucoup avec les petites associations, c'est plutôt mon domaine, tout ce qui est petites associations. Mais bon, on est en articulation avec des structures comme le LMA, le mouvement associatif, ou la CRES, hein, qui font partie, eux, vraiment de l'économie solidaire et solidaire, et qui font un super boulot là-dessus. Ça serait plutôt... je laisserai plutôt la parole, parce que je sens que je pourrais dire des bêtises sur l'économie sociale et solidaire. Mais voilà, il y a des grosses structures comme le LMA, la CRES et d'autres, hein, qui sont là et qui travaillent hyper bien là-dessus. Nous, l'URSN, on est vraiment sur les petites structures. On aide vraiment les structures associatives qui sont sur le terrain, vraiment pour se développer.
Donc, pour faire un peu simple, l'économie sociale et solidaire, c'est tout ce qui est hors marchand. C'est-à-dire que, donc, comme on l'a dit tout à l'heure pour les associations, c'est que l'argent ne va pas forcément dans des actionnaires ou dans des dirigeants. Ça peut être, alors on pense aux associations, sportives, culturelles, mais il y a également les mutuelles, tout ce qui est tout ce qui est de la santé, c'est-à-dire pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les jeunes, etc. Voilà, c'est un peu tout ça. Et vous parlez de la CRES, donc c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est un peu comme la Chambre de l'agriculture, voilà. Mais orientée sur... On aura très rapidement des programmes justement sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a le mois de l'économie sociale et solidaire, donc on travaille là-dessus. Bientôt à l'antenne, les auditeurs pourront entendre ce genre de choses. Là, aujourd'hui, les chiffres clés de l'association par rapport à l'ensemble de la grande région, c'est combien d'adhérents ?
Oh là là, c'est énorme. Moi, je vais vous dire plutôt les chiffres qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est que le monde associatif, c'est plus d'un million d'emplois. On parle toujours de la métallurgie, mais il y a plus de gens qui travaillent dans l'associatif que dans la métallurgie.
Pareil pour l'automobile, je crois.
Voilà. C'est dans la métallurgie. Donc vous voyez que dans l'Oise, il y a plus de 17 000 associations. Quand je me basais sur l'Oise, plus de 17 000 associations. Donc je crois qu'il y en a 400 ou 500 qui se créent chaque année. Donc c'est énorme, c'est énorme. Le monde associatif, c'est énorme. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et je pense que chacun entre nous, quand on a vraiment quelque chose, enfin une envie, et qu'on veut mettre un projet en place, l'associatif, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, pour vraiment mettre en place un projet ou construire vraiment se construire autour d'un projet avec d'autres personnes. Voilà, le monde associatif, c'est ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, le monde associatif, c'est très très important. Alors, mal connu par les pouvoirs publics, des fois.
Ou mal reconnu
par les pouvoirs publics, mais le monde associatif, c'est de tout. Hein, c'est de tout. Hein. On a, tu parlais des équipes, des associations sportives, football, tennis, etc. Mais il n'y a pas que. Hein. Vous avez des aides aux devoirs, vous avez l'aide à l'enfant, vous avez aussi dans la santé, tu parlais de la santé, dans le SS, il y a la santé. Vraiment, le monde associatif touche vraiment toutes les catégories socio-professionnelles.
Ouais, il y a les crèches associatives, les EHPAD associatifs.
Voilà. Il y a vraiment, on touche vraiment toutes les structures de la société, et c'est un pan de notre économie qui est mal connu du public, du grand public. Hein. On parle beaucoup de la chimie, de la pétrochimie. Enfin, là, aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses, de l'industrie, etc. Mais on parle très peu du monde associatif, qui est un grand pan économique de notre pays.
Là, il y a la réforme des retraites. Est-ce que repousser du coup la retraite à plus tard, est-ce que pour ça va pas faire moins de bénévoles pour les associations? Est-ce que les salariés ont moins de temps pour venir en se disant moi je vais venir quand je serai à la retraite, j'irai faire du bénévolat?
Alors c'est vrai que le souci du report de l'âge de la retraite, ça a été un grand souci pour nous, parce que c'est vrai que ce qui est, hein, beaucoup de bénévoles, ce sont des retraités. Et souvent, quand on est en retraite, quand on a un peu réfléchi sur ce qu'on va faire en retraite, on se dit tiens, je vais donner du temps à une association. Aujourd'hui, si on recule l'âge de retraite à 64 ans, le problème, c'est qu'on va reculer l'âge de se mettre à disposition d'une association 4 ans après. Donc ça va poser un problème. Pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres, mais on pense que ça va poser vraiment des problèmes sur le bénévolat, oui.
C'est vrai qu'on a entendu beaucoup les syndicats de salariés se poser ce problème-là sur la retraite, mais pour nous les associations, c'est aussi des forces vives qu'on aura plus tard, ou qu'on n'aura peut-être pas d'ailleurs.
On n'aura peut-être pas. Voilà.
On va réécouter un extrait musical. Je vous propose de faire un tour avec Bertrand Belin, Surface, extrait de son dernier album. C'est très très beau pour se commencer avant d'aller au boulot. Et on se retrouve juste après, et n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez liker la page Facebook, c'est possible. On est également sur Twitter. Sur Instagram, on n'a pas beaucoup de followers. Je crois qu'on a un petit millier de followers. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. On écoute Bertrand Belin, on se retrouve juste après. C'est Graphite, c'est la matinale. Ah.
J'ai glissé dans les chambres. J'ai eu du repos, des surprises en amour. Plusieurs fois les branches ont cassé. J'ai eu du repos, des nuits blanches en amour. Des jours entiers, parfois des années, perdu de vue. J'ai briqué des surfaces jusqu'à me voir dedans, curieux face à face, pas évident, pas évident. Quasiment moi-même, de nouveau, quelque part derrière la virgule, à revoir mes calculs, descendu du train, train couchette, revu mes numéros de claquettes, revu à la baisse, son altesse. Des jours entiers, parfois des années, perdu de vue. J'ai briqué des surfaces jusqu'à me voir dedans, un curieux face à face, pas évident, pas évident. Avec mon barda, j'ai glissé dans les chambres. J'ai eu du repos, des surprises en amour. Plusieurs fois les branches ont cassé. J'ai eu du repos, des nuits blanches en amour. Des jours entiers, et parfois des années, loin de tous, à la ramasse, à la ramasse. J'ai briqué des surfaces, j'ai briqué des surfaces.
Bertrand Belin sur les ondes de Graphite 94.9 pour la matinale. Encore quelques informations locales, puisque vous allez retrouver cette année les Zikophonies qui ont lieu le vendredi 19 mai avec Danakil, donc le groupe reggae. D'ailleurs, Danakil, à chaque fois que je vois le chanteur de Danakil, j'en parle. Mais à l'époque, Danakil venait faire des émissions à Graphite dans les années 2000 avec leurs potes qui étaient à l'UTC. Il y aura également samedi Deportivo et les Trois Fromages. Bah, et puis évidemment, plein de groupes locaux que vous pourrez voir samedi sur la scène régionale. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, c'est à Clermont-de-Loise, à la salle Pommery, c'est la 26e édition, et je vous le rappelle, c'est le 19 mai. Également des expositions, il y a des expositions qui vont arriver, alors on est souvent au centre Henri François à Marny-les-Compiègne. Là, il y a une exposition qui vient de commencer qui s'appelle Scène de vie extraordinaire, alors entre parenthèses pour extra et ordinaire à côté, c'est une exposition de Carole Chez. Ça se déroule du 4 avril au 27 mai au centre André François, donc pareil, allez vous faire un tour, c'est gratuit. Et puis on les a reçus la semaine dernière, c'est la 7e nuit des concerts de Porquéricourt avec les Fatal Picard. La date c'est le 30 juin et le 1er juillet avec des groupes de reprise mais également des groupes locaux avec Mialis qu'on a reçu sur notre antenne. Voilà toutes les informations, vous les retrouvez évidemment sur notre page Facebook et puis sur le site de la radio www.graphite.net. On est toujours en compagnie de Carlos Lopez pour nous parler de Urasen, cette association au service des associations. Quel est le premier conseil que vous donnerez à quelqu'un qui veut monter une asso?
Alors le premier conseil, c'est déjà de travailler son objet, l'objet associatif. Qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà, ça c'est le premier conseil que je demande toujours, parce que des fois on se dit « Oh, je veux faire une association. Une association de quoi ?» Ben, je ne sais pas encore, mais je veux faire une association. Donc je lui dis, le premier conseil, c'est de travailler votre objet associatif, ce que vous voulez faire. Et puis après, bien, nous contacter, nous ou un autre guide asso, pour pouvoir après commencer à travailler sur les statuts. Alors je mets un point sur les statuts, pourquoi? Parce que les statuts c'est très important, c'est la carte d'identité de l'association. Et s'ils sont mal rédigés, vous aurez des petits soucis par la suite. Donc vaut mieux commencer à bien les rédiger, bien travailler sur l'objet associatif, et puis après, ça roule.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait être minimum deux. Est-ce qu'il faut un président, un secrétaire, ou est-ce qu'on peut faire des associations sans hiérarchie, entre guillemets, juste avec des représentants associatifs?
Complètement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on demande un président, un trésorier, un secrétaire, un président, parce qu'il faut, entre guillemets, quelqu'un qui soit responsable de l'association. Il y aura toujours quelqu'un qui sera juridiquement responsable. On peut l'appeler président, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est pas une obligation. Et puis il nous faut aussi quelqu'un qui puisse gérer un peu le financier, les rentrées d'argent, si vous touchez des subventions, etc. Donc il y a deux personnes, il faut minimum être deux, mais voilà, vous pouvez être des coprésidents, des co-trésoriers, des copains, simplement, qui ont envie de partager quelque chose.
Il faut déclarer ses statuts quelque part, il faut s'enregistrer quelque part pour monter une asso?
Alors dès que vous avez travaillé sur vos statuts, vous avez commencé à mettre en place vos statuts, quand vous allez faire votre première AG, votre assemblée générale, avec tous vos amis qui ont envie de partager votre passion, vous envoyez tout ça au greffe des assos, à la préfecture, au service des greffes des assos, qui va vous enregistrer et vous allez recevoir quelques temps après, quelques jours après ou 15 jours après, il y a un petit courrier, et on appelle ça un récépissé, et votre numéro RNA, comme quoi vous êtes bien enregistré au registre national des associations. Donc vous avez ça, il y a avec ce papier qu'il faut garder précieusement, je dis bien précieusement, vous faites des copies, vous le mettez bien de côté avec vos statuts, vous allez pouvoir faire des demandes, vous allez pouvoir, votre association à vie au sein de la société.
Est-ce que c'est payant tout ça pour remonter une asso?
Non, tout est gratuit. Si on vous fait vous faire payer, c'est qu'il y a arnaque. Donc non, tout est gratuit pour monter une association. Si vous allez dans les structures, qu'on vous dit on va vous prendre temps pour monter votre association, venez voir l'URASEN ou les guides d'asso, ils seront là, ils le font gratuitement.
Il y a une publication journal officielle qui est ensuite faite, c'est la préfecture qui le fait, c'est nous qui le faisons?
Souvent, ça dépend des départements, souvent c'est la préfecture qui, elle prend toutes les associations qui ont été déclarées, puis au journal officiel ça sort.
Il faut un siège social, est-ce qu'on peut faire le siège social à la maison ou est-ce qu'il faut que ça soit un siège social professionnel entre guillemets, une boîte extérieure?
Non, alors vous pouvez faire, bien sûr, vous pouvez faire votre siège social à la maison. Alors, petite info, alors ça est très important, quand vous faites votre siège social, un exemple, vous faites une association, je donne un exemple, l'association des Hérissons de Compiègne, le siège social sera à Graphite, ça ne sera pas chez le directeur de Graphite, mais à Graphite, c'est-à-dire que vous ne mettez pas chez monsieur Intel ou chez madame Intel, vous mettez vraiment l'adresse et le nom de l'association.
On peut se faire domicilier dans les mairies pour notre association si on ne veut pas que ce soit notre adresse perso?
Alors moi, c'est une préférence que l'URSN demande, faites-vous domicile dans les mairies. Alors, certaines mairies ne veulent pas pour X raisons parce qu'ils ne le savent pas non plus. C'est pour ça qu'on conseille vraiment les communes. Mais le mieux, c'est dans les mairies. Pourquoi? Parce qu'une mairie, ça ne change pas. Donc, si vous êtes un président, si vous avez un président ou un trésorier qui veut bien se faire domicilier chez lui, mais que demain il déménage, vous êtes obligé de refaire les statuts. Enfin, il n'y a pas le choix à refaire. Donc là, non, dans une mairie, ça bouge pas. Alors, le mieux, c'est dans une mairie, oui.
On est Graphite Aimé sur plusieurs territoires, sur plusieurs départements, l'Oise, la Somme, l'Aisne. Si on est sur une frontière, est-ce qu'il vaut mieux mieux se déclarer dans tel département que dans tel département? Est-ce qu'il y a une incidence sur l'endroit où on va déclarer notre association?
Non. Tout dépend. Voilà. Après, comme je dis, c'est les affinités qu'il y a. Si vous avez des affinités avec un exemple, vous êtes à cheval sur le département de l'Aisne et de l'Oise, mais vous avez beaucoup plus d'affinités, beaucoup plus adhérents dans l'Aisne, déclarez-vous dans l'Aisne. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Les demandes de subvention aussi, on peut les faire directement au département dans lequel on est enregistré. On peut demander au département dans lequel on va faire nos activités.
Alors, vous pouvez. Alors, les demandes de subvention, comme je dis toujours, il faut toujours frapper à toutes les portes. Donc voilà, si vous avez une activité et vous savez que l'activité va se faire dans l'Aisne et dans l'Oise, ben vous demandez aux deux départements et vous expliquez le pourquoi du comment et quelle est l'activité et vos besoins. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Après, vous aussi, n'oubliez pas aussi de demander à vos communes de participer. Hein. C'est un exemple, j'ai un exemple tout concret. Il y a une association de danse qui est pas trop loin d'ici, du côté de Villers-Saint-Paul, qui fait de la danse et qui, ben, il y a des gens des plusieurs communes et ils disaient, ben, nous, il n'y a que Villers-Saint-Paul qui nous finance. Et pourquoi les autres financent sport alors que vous avez des citoyens des autres communes. Donc ils vont faire des demandes dans les autres communes. Il faut le faire, hein, faut vraiment taper à toutes les portes.
Ok, on fait un petit message aux 200 communes qu'on couvre, n'hésitez pas à nous envoyer de l'argent. On avait déjà fait une demande à plein de communes, on n'a jamais reçu de réponse, mais voilà, c'est la vie associative.
C'est la vie associative.
Alors, on parle des subventions, on sait que c'est des choses qui sont de plus en plus rares ou de moins en moins dotées. Est-ce qu'il y a d'autres financements possibles pour une association? Je pense au privé, est-ce qu'on peut avoir du mécénat? Est-ce qu'on peut avoir des dons particulier, comment ça se passe pour tout ça?
Alors vous pouvez, bien sûr, vous pouvez faire des demandes de mécénat, il y a des fondations aussi, hein. Un exemple, alors je ne fais pas de publicité, hein. J'ai aucune part, vous aviez le Crédit Agricole qui avait une fondation qui voilà, demandait, il subventionnait certains projets aux subventions jusqu'à des hauteurs de 5000 euros, vous avez aussi des mutuelles qui le font, vous avez les Intermarchés qui, je dis toujours, quand je donne des noms de marques, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de part dessus, c'est parce que voilà, c'est des dossiers qui nous remontent, qui aider des clubs, voilà, vous avez Décathlon qui aide aussi des associations. Donc vous pouvez faire des demandes voilà, faire du mécénat. Vous avez aussi des particuliers qui font des dons aux associations. Donc voilà. Alors ce qu'il faut, c'est bien sûr que vos statuts sont conformes à être d'intérêt général. Hein, c'est ça qui est surtout valable. Comme ça, derrière, vous pouvez recevoir des dons et en même temps, les gens peuvent avoir des réductions d'impôts.
Je crois de 60%.
60%, voilà.
Donc ça, pour quand l'association fait une demande auprès des impôts pour pouvoir remettre un rescrit fiscal, donc ils demandent souvent votre dernier bilan, etc. Si vous n'avez pas de réponse au bout de 2 mois, je crois que c'est accepté.
Voilà.
Également, il y a des associations qui sont déjà financées par l'État, et là, un peu d'office, elles deviennent associations d'utilité publique.
Attention, il y a
c'est différent.
Utilité publique, les gros utilités publiques, tout le monde les connaît, hein, Restaurant du Cœur, etc. C'est des grosses associations qui sont vraiment au niveau national. D'intérêt général, d'intérêt général, c'est plus sympa. Il faut bien regarder au niveau de vos statuts, que vous êtes bien, il y a une gouvernance démocratique, voilà, vos comptes sont transparents, etc. Et vous faites une demande, bien sûr, au niveau du fisc. Et si au bout d'un certain temps, vous n'avez pas, je crois que c'est 1 ou 2 mois, vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'est bon, vous pouvez faire, vous pouvez recevoir des dons et faire des réductions d'impôts, des restrictions fiscaux, il n'y a pas de souci là-dessus.
Alors attention, parce que c'est nouveau depuis l'année dernière, il faut déclarer ces dons qu'on a reçus à la fin de l'année, c'est sur mon compte association, donc ça se faisait pas avant. Aujourd'hui, on doit déclarer juste le montant des dons qu'on a reçus, pas forcément de faire un truc détaillé, mais voilà, ça, c'est quelque chose pour les associations qui ont des dons. Alors évidemment, on parle des dons en numéraire, en argent, mais également les bénévoles peuvent retirer les kilomètres qu'ils font pour leur association.
Ouais, maintenant oui, on peut retirer les kilomètres, comme si vous étiez dans l'entreprise, vous avez un certain nombre de kilomètres. Vous pouvez même, alors moi je vous conseille aussi même de calculer le temps bénévole. Alors c'est pas de l'argent, on va dire c'est de l'argent fictif. Parce qu'on
c'est une valorisation. Ouais.
Mais valorisez votre temps bénévole. On va de plus en plus vous le demander. Faites-le. Moi, je vous conseille de rajouter une ligne au niveau de vos bilans financiers et le temps que passent les bénévoles chez vous. Alors, si vous ne savez pas le faire, vous nous contactez, que ce soit l'URSSN ou les guides asso, pour qu'on puisse vous dire comment on fait pour calculer tout ça. Parce que, ben voilà, il faut quand même valoriser notre temps. Hein. On dit des fois, on va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures dans une association. Mais si vous multipliez ça par un SMIC chargé, par le nombre d'heures que vous faites par semaine, par mois, et voilà, et bien ça fait beaucoup. Et des fois, on arrive à des temps pleins.
Et il n'y a pas le même montant pour des cadres dirigeants, pour des membres du bureau, que pour des salariés qui vont faire du service ou ce genre de choses.
Alors ça c'est au bon vouloir de l'association. Il y a des associations qui mettent un temps cadre plutôt pour les cadres dirigeants, genre trésorier, etc., président, secrétaire ou président adjoint, et puis un SMIC, un taux horaire de SMIC chargé pour tout ce qui est bénévole, etc. Ça dépend des associations. Hein. La majorité des associations, ils gardent sûrement une tranche, ils mettent un certain montant et ils calculent ce montant-là pour tout le monde.
Également tout ce qui est petite, si on achète, je sais pas, des journaux pour mettre dans son émission, ce genre de choses, pareil, les bénévoles peuvent le retirer aussi de leur déclaration fiscale.
Alors là-dessus, je préfère que vous demandiez parce qu'ils sont, ils changent pas mal de fois. Ils changent pas mal de trucs au niveau de l'action fiscale, surtout qu'il y a eu de certaines réformes. Donc il faut vraiment regarder tout ce qu'on peut vraiment enlever. Alors, alors ils sont très sympas. Vous leur téléphonez et ils vous disent vraiment, là, surtout en ce moment, il y a pas mal de choses, il y a des permanences. Vous leur téléphonez, vous leur l'expliquez. Expliquer ce que vous faites et vous leur demandez. Alors parce que tout ne peut pas être déductible, mais il y a certaines choses qu'on ne sait pas qui sont déductibles et c'est hyper intéressant.
C'est le moment de remplir vos impôts. Hein.
Oui, attendez pas, allez-y, hein, tardez pas.
Et d'ailleurs, si vous avez fait un don à Graphite, et bah, vous pouvez défiscaliser 60%. Donc si vous avez fait un don de 100 euros, bah, vous allez pouvoir retoucher, enfin, un reversement de vos impôts de 60 euros. Ce qui est plutôt pas mal de recevoir un petit chèque des impôts, c'est souvent l'inverse.
C'est intéressant, hein. C'est intéressant.
On parlait des appels à projets par des organismes divers. Et varié. Alors, par exemple, il y a le fonds Maïf pour l'éducation. Bon, il s'est déjà terminé, mais par exemple, les assurances font ce genre d'appel. Donc là, c'était sur l'éducation. Il y avait un appel à projet qui s'appelait Sommeil Objectif Connecté, Marchand de Sable ou Poudre aux Yeux. C'était un appel à projet sur des vidéos. Donc, on peut aller taper à la porte de vraiment un peu tout le monde, quoi.
Oui, oui. Alors, moi, j'ai un conseil à vous donner. C'est que, alors, tout à l'heure, on parlait de la MAM, la maison de Amiens Métropole, d'Amiens. Allez sur leur site. Ils ont un site avec un lien sur les fondations. Et vous verrez que vous avez des appels à projets de tout, que ce soit culturel, sportif, etc., d'animation. Il y a pas mal d'appels à projets. Et faites votre choix et essayez de mettre en place des dossiers. Aujourd'hui, voilà, le monde du privé commence à revenir vers l'associatif, surtout au niveau des mutuelles et des banques qui commencent à revenir, et des assurances qui commencent à venir vers le monde associatif. Donc, comme je dis, il faut en profiter. Et si vous avez un super projet, essayez de voir s'ils peuvent le financer.
Comment bien choisir sa banque quand on est une association ?
Alors, je ne vais pas faire de publicité. Il y a des banques qui sont... nous, on travaille avec une banque, hein, c'est le Crédit Mutuel qui...
banque coopérative, ouais.
Voilà, qui derrière, bah, aide beaucoup le monde associatif. Donc, il va y avoir des gens qui vont dire, bon, elle est bien, d'autres qui vont dire qu'elle n'est pas bien. Mais bon, voilà, tout dépend de votre conseiller. Bon, comme je dis toujours, c'est quand il y a un bon feeling, qu'elle vous suit depuis de nombreuses années, voilà, restez-y. Après, si vous ne savez pas, voilà, nous, je sais qu'on travaille avec le Crédit Mutuel. Donc là, ils sont très bien, on travaille depuis de nombreuses années avec eux, et ça marche bien. Et puis la personne qui est sur l'Oise, donc je n'ai pas son nom en tête, là aujourd'hui, je l'ai au bureau, elle est très très bien, elle suit pas mal d'associations qu'on leur a envoyées, et derrière on téléphone toujours à nos associations pour savoir s'ils ont été pris en charge, etc., et on n'a que des bons retours. Mais après, voilà, c'est le feeling que vous avez avec votre conseiller, bien sûr.
Donc les banques mutualistes, c'est Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, par exemple. Après, il y a d'autres banques. Alors nous, on ne vous conseillera pas notre banque, hein, nous on est à la Société Général, mais qui ne nous aide pas du tout. Un petit message au passage. Mais voilà, vous pouvez être à la Société Générale, vous pouvez être... on sait qu'également le Crédit Agricole fait souvent des aides aux associations, surtout en milieu rural. C'est un peu les structures les plus classiques. Le CIC aussi le fait un petit peu.
Voilà, il y a vraiment des structures qui sont classiques. Hein. Je sais que le Crédit Agricole, avant, ne le faisait plus. Maintenant, il vient vers le monde associatif, comme tu l'as dit, au niveau de la ruralité. Voilà. Mais je dis toujours, si vous avez un super conseiller, si vous êtes à la Société Générale ou à la Banque Populaire, avec votre conseiller est super sympa, qui vous aide là et qui, depuis de nombreuses années, voilà, restez-y.
C'est des coûts, hein, faut pas oublier quand on fait son bilan ou plutôt son prévisionnel. Comment on fait un bon prévisionnel d'ailleurs quand on monte son association ?
Ah, très bonne question. Alors ça, c'est un des problèmes qu'on a quand on travaille sur des budgets, c'est le retour des prévisionnels des associations. Un prévisionnel, il doit être à l'équilibre. Ça, je tenais à le dire, il était un équilibre.
Histoire que les recettes et les dépenses doivent s'annuler, en fait. Ça doit être, on doit arriver à zéro.
On doit arriver à zéro, grosso modo. Si vous avez 4444 euros de dépenses, vous avez 4 444 euros de recettes. Il doit être vraiment à l'équilibre. Et derrière, comme je dis toujours, c'est vous devez réfléchir à ce que vous allez faire dans votre budget prévisionnel. Alors, on dit toujours le budget prévisionnel, c'est le fantasme du trésorier, c'est ce qu'il aimerait avoir. Mais bon, il doit être réfléchi, c'est-à-dire que si vous allez mettre en place des actions, si vous êtes déjà une association qui a 3 ou 4 ans, ben, ce que vous faites, c'est que vous reprenez un peu ce que vous avez fait l'année précédente et vous essayez de voir si vous allez faire des choses en plus ou pas. Si vous n'allez pas faire des choses en plus, c'est exactement les mêmes actions, et ben, vous reprenez le budget que vous avez fait l'année dernière et vous le remettez à jour. Si vous êtes une nouvelle association, que vous venez juste de démarrer, et ben vous réfléchissez aux actions que vous allez faire l'année d'après et vous mettez en place un budget qui soit en articulation avec ce que vous allez faire. Les actions et le fonctionnement de votre association. Et là, vous aurez un bon budget prévisionnel. Ne mettez pas n'importe quoi dessus, ça ne sert à rien. Vaut mieux avoir un budget prévisionnel vraiment bien fait, réfléchi. Donc un budget prévisionnel, ça se réfléchit, comme je le dis. Il ne faut pas le travailler du matin pour le soir. Il faut travailler dessus bien 15 jours, 3 semaines, un mois avant, pour avoir un bon budget.
Est-ce qu'il faut, quand on fait une demande de subvention, demander plus de ce qu'on a besoin, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une demande de subvention vraiment? Alors souvent, on fait une demande de subvention, on a souvent moins. Est-ce que certains vont dire qu'il faut faire une demande de subvention supérieure? Est-ce que c'est un conseil que vous donnez?
Ah non, je ne donne pas ce conseil-là. Non. Comme je dis, la demande de subvention, c'est par rapport à ce que vous allez demander. Grosso modo, vous savez que les services publics, hein, quels que soient les services que vous allez faire de demande de subvention, maximum, ils vont vous subventionner à 80%. Alors moi, j'ai un petit conseil à vous donner aussi, c'est quand vous faites une demande de subvention, faites du cofinancement. Qu'est-ce que c'est que du cofinancement? C'est-à-dire que si vous demandez une subvention à votre mairie, ben, vous mettez dessus que vous avez demandé aussi, c'est pour la même action, vous avez demandé aussi une petite partie au département, à l'État et à la région. Quand il y a du cofinancement, le service qui va traiter va dire, ok, même si moi je lui donne un petit peu moins, il aura d'autres cofinancements, donc l'action va se mettre en place. Voilà. Si vous demandez qu'à une seule structure, des fois, bon, ils se disent, si vous avez demandé 1000 euros et qu'ils vont vous donner que 400 euros, ils vont dire, bon, on ne va rien donner parce que ça ne va pas se faire si on ne donne que 400 euros. Donc, quand ils voient du cofinancement, derrière, ils donnent toujours un peu plus.
Est-ce que vous conseillez des outils pour la gestion d'associations numériques? Alors, je pense à Mon Asso Facile ou au site HelloAsso, qui permet d'avoir des dons, des cotisations, vendre des places, vendre du merchandising. Est-ce que chez Urasen, vous conseillez certains outils numériques?
Alors non, on ne conseille pas. C'est vraiment par rapport à vos besoins. Comme je dis toujours, il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on peut acheter un logiciel pour faire notre comptabilité? Si vous avez l'utilité, oui. Si vous n'avez pas l'utilité, faites un tableau Excel. C'est aussi bien. Si vous avez besoin d'HelloAsso, oui, prenez-le. Si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine. Voilà, c'est vraiment par rapport au travail que vous allez faire, par rapport aussi l'association, ça a beaucoup de bénévoles, ça fait beaucoup d'actions, etc. Plus vous allez faire des actions, plus vous allez avoir des mouvements financiers, plus vous allez avoir besoin d'outils compétents. Si vous n'avez pas l'utilité, non, on ne conseille pas. Non. Après, chaque association est libre de faire ce qu'elle veut. Il y a des outils qui sont sur Internet, qui sont gratuits, ils sont très très bien. Je ne donnerai pas les noms parce que je ne peux pas me lucider. Mais voilà. Après, si vous voulez des conseils, vous nous téléphonez, puis on vous dira les outils qui sont simples, gratuits, et d'autres. Mais tout dépendra bien sûr de votre association. Si c'est une association qui est assez conséquente, qui a beaucoup de flux financiers, on vous conseillera des outils, puis des fois, qui sont bien sûr à l'achat.
Donc on rappelle, avant de se quitter, les bases hein, pour monter une association, des statuts, peut-être également un règlement intérieur, c'est mieux?
Règlement intérieur, ça se voit dans un deuxième temps, quand l'association est bien constituée.
Ouvrir un compte?
Oui.
Prendre une assurance?
Obligatoire.
Donc c'est ça un peu les trois premières choses à faire, aux quatre premières choses à faire.
Et surtout, soyez deux pour monter une association.
Et trouver des camarades pour pouvoir monter tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce matin d'Urasen et donc de l'associatif et comment on monte une association.
Merci à vous.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook ou sur le site d'Urasen également. Il y a un site internet, hein, urasen.org. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, on mettra tout ça en podcast. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par Graphite. On pourra très simplement vous informer également. Et puis peut-être que ça fera avancer notre dossier, mon guide asso, pardon. On va se quitter avec un artiste, avec du rap d'ailleurs pour terminer. Ah mais avant de se quitter, on écoute un reportage qui a été réalisé par Axel. Elle a été voir une masseuse qui propose des nouveaux massages à Compiègne. J'avais un peu oublié au cours de l'émission. On écoute ça, on se retrouve juste après pour vous dire au revoir.
Un bien-être total, un lâcher prise du corps grâce à des caresses. On va parler aujourd'hui d'une méthode de massage encore peu connue en France, le massage sensitif qui éveille les sens grâce à un toucher délicat. Mais alors, comment a été inventée cette technique et en quoi consiste-t-elle? C'est Martine Desesquel, praticienne en massage sensitif depuis maintenant un an et demi à l'Institut Essentiel de Compiègne, qui va nous faire voyager aujourd'hui.
Bonjour Axel.
Bonjour Martine. Alors racontez-nous un peu l'histoire, l'historique de ce massage.
Alors le massage sensitif, c'est une méthode qui a été développée, pour tout vous dire, en 1956 par un certain monsieur Claude Camilly. Il entraînait des joueurs sportifs et il s'est rendu compte qu'en massant ses joueurs, il obtenait une plus grande attention de la part de ses joueurs.
Quelle est la méthode, la technique secrète, on va dire, de ce massage ?
Cette méthode, c'est basé sur essentiellement un geste très lent qui permet une détente très profonde et une libre expression corporelle, ce qui veut dire que vous vous positionnez sur une table de massage ou sur une chaise et vous, en tant que massé, vous bougez si vous en avez envie. C'est vous qui décidez de ce qui va se passer sur la table ou sur la chaise. Et nous co-créons le massage. Moi, je suis ce qui se passe. Je vais au ressenti. Voilà.
Et alors, dites-moi, quelle est la différence avec un massage entre guillemets dit classique ?
Il n'y a pas de protocole préétabli. Alors, il y a effectivement un massage de base, un toucher de base, mais il n'y a pas de protocole, c'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure de ce qui s'établit entre le masseur et le massé. Tous les massages sont différents. Et il y a seulement quelque chose que l'on respecte, c'est le schéma corporel. On ne va pas aller, par exemple, de la tête, on ne va pas lâcher la tête et aller aux pieds. On respecte le schéma corporel, on passe de la tête à l'épaule, on descend sur le corps et sur la jambe pour arriver aux pieds.
Un toucher donc attentif et respectueux, assis, debout ou encore habillé, la masseuse s'adapte en fonction du client et Martine Desesquelles a convaincu même les personnes réticentes.
C'est dépaysant, apaisant, je suis pas quelqu'un de base qui va aller me faire masser de moi-même et là on me l'a conseillé. C'est très délicat, j'avais peur justement que ça soit vraiment, comment dire ça, intense, que ça fasse mal, mais là pas du tout. C'est vraiment très très agréable.
On n'a jamais envie que ça s'arrête. Non, c'est bien parce qu'après on est vraiment recentré, j'ai l'impression, et détendu comme il faut.
Pour faire découvrir son massage et convaincre de plus en plus de monde, Martine Desesquelles a créé un concept, le Happy Hands Party. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Dites-nous un peu en quoi ça consiste.
C'est un événement que j'organise chez une hôte ou un hôte qui lui-même ou elle-même invite 5 personnes et qui vont se faire masser pendant 10 minutes chacun, y compris l'hôte. Donc j'arrive avec mon service à thé, mon thé, mes petites infusions, mes petits gâteaux, et on s'installe dans un petit moment convivial, 2 heures en tout, et je fais connaître mon massage sur chaise à chacune des personnes qui sont là.
Alors vous l'avez bien fait remarquer, pour une détente totale, vous ramenez du thé à vos hôtes. Comme le dit le proverbe Touareg, la sagesse de tout l'univers se trouve dans une tasse de thé. Alors pour ça, on va se rendre chez Nougatine à Compiègne, situé au Cloître. Donc c'est un magnifique endroit où bruncher et où l'on peut récemment justement consommer du thé. Bonjour Elvina Bouy. Alors je l'ai résumé brièvement, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi Nougatine ?
Donc Nougatine, c'est avant tout du brunch, des apéros, du partage, de la convivialité. Mais aussi en parallèle, nous avons créé notre marque de thé et c'est ce qu'on va mettre en avant aujourd'hui avec Martine dans l'esprit bien-être.
Comment vous vous êtes lancée dans la création de cette marque de thé ?
Ça s'est fait vraiment parce que j'étais à la recherche d'une collaboration avec une marque de thé pour pouvoir offrir à mes clients une très bonne marque de thé. Puis rapidement, j'ai vu qu'il était assez simple de pouvoir créer sa propre marque avec ses propres saveurs, ses propres associations. Donc je me suis rapprochée d'un importateur de thé français qui travaille en bio exclusivement. Et qui est très accessible et avec lequel on a commencé une collaboration et on a mis en place des recettes avec une thématique sur la ville de Compiègne. Donc vous retrouverez des thés qui s'appellent Picantin, Lys d'Or, Thé du Cloître, divers noms comme ça rappelant, enfin faisant un petit clin d'œil à la ville de Compiègne.
Alors dites-moi, quel thé vous me conseillez aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je fais déguster donc le thé du cloître, qui est mon préféré, on va dire. Il y a une petite concurrence également avec le jardin des roses, qui est plutôt un thé de Noël à base d'orange, cannelle, pétales de rose.
Cette gamme de thé est en train de se développer d'ailleurs. Vous pourriez bientôt la retrouver dans des boutiques compiègnoises, comme par exemple à la Brûlerie Cour-le-Roi ou encore chez Madeleine Cookie. Elvina Bouy envisage également la création d'un site internet.
Et voilà le premier reportage proposé par Axel Corby, qui est service civique chez nous jusqu'en septembre. Vous la retrouverez jusqu'en septembre à l'antenne, et notamment le vendredi midi 30 pour l'actualité étudiante, donc principalement pour les UTC1, mais pas seulement. Donc n'hésitez pas à la contacter, et on vous souhaite une bonne journée, bon courage si vous allez au boulot, et à très bientôt sur notre antenne. Salut.
Je suis pas Mbappé, mais j'aime pas perdre. Le seum de Courtois sur les réseaux et les papiers. Je suis rentré dans le dur, je protège les petits frères à la Duchesne. Ça joue les victimes, mais ça va tout seul sur le bûcher. Dans mon quartier, c'est Walking Dead, j'évite les fans et les zombies. Les haines sont mille, mes poches sont pleines, les cerveaux sont vides.
Un cadeau, le facteur ramène un cadeau. Un cadeau, le facteur ramène un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau.
Rien de nouveau, rien de bien.
Nada.
Pas parti mais je reviens, de rien.
Merci.
Je tiens à l'argent mais
oui.
C'est pas lui qui me tient.
No.
Flinguer c'est mon métier, pas besoin que vous m'aidiez. Tous ces nullards sont à mes pieds, avec ta paix. J'fais une pub pour des produits laitiers. On se fait pas chier ici. Et comme d'hab j'hésite.
Entre
carrière de Jay-Z, Walter et Jesse.
Pinkman,
les yeux comme ce fameux moulin à Pigalle. Ou les deux joues de Pikachu. Vos darons les Big Man.
Un cadeau, le facteur ramène un cadeau. Un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau.
C'est Zinedine Zidane.
Mon meilleur ami c'est le postier.
Vos mamans sont sur Instagram.
Faites belle et qu'est-ce que vous postez.
Le prix de la coca coulée.
Ah bon.
Whisky, coca, cola. C'est mon sixième putain. Demain matin ce sera caca coulant. Je suis pas venu ici pour souffrir. Tant de désirs à assouvir.
Okay. Okay.
Pendant ce temps mes sous-fifres m'envoient de l'herbe sous vide.
Okay.
Tu peux
okay.
pas nous vaincre. C'est incre. Un colis de Cali. Je suis refait comme Kylie.
Un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau,
yeah.
Un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau.
Gigi Slimka, how you feel?
Un cadeau,
le cadeau que Washington recherche, putain de merde, hein?